radio. Hein. Ah bon, alors.
Les rencontres d'Elios,
l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommery.
Les rencontres d'Elios
avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien. Nanana.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux qu'elle y aille.
Bonjour Benjamin, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation pour réaliser cette émission. Dans un contexte un peu particulier aujourd'hui, parce que les rencontres d'Elios, en général, ça se fait sur le terrain. C'est une émission d'immersion. On va à la rencontre d'acteurs locaux, en général, d'associations, de personnalités. Il se trouve qu'aujourd'hui, on avait organisé et coordonné avec Studio Zef une séance d'initiation au travail de la radio, au travail radiophonique, comment s'y prendre, comment se débrouiller avec l'objet radiophonique. Et donc, on a trouvé que c'était une bonne solution que de faire cet enregistrement au studio de Studio Zef, parce que la qualité sonore sera bien meilleure. Donc, merci de se prêter au jeu. Et on a plein de questions à poser, mais c'est libre. On va essayer de faire ça de manière un peu détendue, en échangeant la parole, en se parlant comme dans la vie normale. Mais oui, on a un vrai questionnaire assez élaboré. Donc, je laisse Marian commencer par la première question.
Bonjour Benjamin, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire votre parcours professionnel ?
Donc bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Ben Pilreau, je suis sportif de haut niveau. Je suis membre de l'équipe de France de volley assis. Et puis dernièrement, en fait au départ, je me suis fait amputer en 2018. En 2019, en fait, j'ai fait un programme qui s'appelle La Relève. Ce programme, c'est un programme organisé par le Comité paralympique sportif français. Qui permet de détecter des personnes en situation de handicap qui ont un profil sportif. Et puis, j'ai passé ces tests-là, et après, je me suis dirigé vers au départ, les sports de pagaie, et puis maintenant, le volley assis, qui m'a emmené après aux Jeux paralympiques, et puis aujourd'hui, je continue.
Tu as fait aussi une formation, je crois, pour devenir éducateur sportif. Ça s'est passé comment ?
Oui, c'est ça. En fait, au départ, j'avais pas de soucis. J'étais pas amputé, donc et pas de soucis de santé. Donc, juste après le lycée, j'ai fait un BPJEPS APT, c'est activité physique pour tous, pour encadrer dans des écoles. Je donnais des cours de fitness également. Donc ça s'est passé pendant 2 ans, où il y a un tronc commun. Et puis après, on se dirige vers le métier qui nous intéresse le plus. Donc voilà, et depuis, en fait, je me suis fait embaucher par la communauté de communes Beauce-Val-de-Loire. Et maintenant, je travaille pour la ville de Mer, mais plus en tant qu'éducateur sportif depuis que je me suis fait amputer, mais je suis avec une autre collègue responsable d'un service logistique. Donc rien à voir, mais j'aime bien, c'est assez polyvalent, et puis j'ai toujours du temps pour m'entraîner à côté.
T'aimes pas trop la routine, faut qu'il y ait du défi un peu.
Ouais, c'est ça, c'est ça, ça change un peu.
Avec ton handicap, tu arrives à. T'as la volonté de faire du sport encore beaucoup ?
J'arrive à surmonter mon handicap pour faire du sport, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Oui, en fait, dès que j'étais au centre de rééducation, on a fait pas mal de sport, ce qui me permettait de, moi, mieux vivre le handicap. Et puis, en fait, quand on a une prothèse tibiale comme la mienne, donc amputée en dessous du genou, ça demande 30% de plus d'énergie à son corps, à peu près, pour pouvoir marcher, pour pouvoir courir. Donc, le fait de faire une activité physique au départ, c'était pas d'aller vers le haut niveau. C'était surtout de, moi, bien me sentir dans ma tête et puis d'être bien physiquement pour pouvoir mieux marcher, pouvoir recourir et faire n'importe quelles activités sans me mettre de limites.
Comment es-tu arrivé au haut niveau ?
Bah, comme je l'ai dit juste avant, en fait, j'ai fait la journée paralympique du comité paralympique. Et après cette journée-là, en fait, on m'a orienté vers différents sports. J'ai fait des essais un peu partout. Et j'étais intéressé par les sports de pagaie qui m'ont emmené à l'équipe de France de rafting. Et après, en même temps, j'étais intéressé par les sports collectifs, puisque je suis plus issu du basket à la base. Mais je ne voulais pas être en fauteuil. Et je me suis dirigé vers le volley assis qui se passe vraiment au sol. On glisse sur le sol, c'est assez physique. Et puis le fait d'avoir une équipe autour de soi, c'est pas mal. Et de gagner à plusieurs, de construire quelque chose à plusieurs, pour moi, je trouve ça plus intéressant, mais ça, c'est mon point de vue. Après, le fait de faire les sports pagaies comme je faisais en individuel, c'était aussi intéressant parce que c'était un dépassement de soi individuel. Donc, c'est deux sports différents, mais deux sports qui m'apportent énormément.
Socialement et professionnellement, tu le vis bien ?
Bah, l'année juste avant les Jeux, c'était un peu compliqué parce que je travaillais normalement. Il y a des sportifs qui vont être déchargés totalement de leur travail parce qu'ils ont des gros sponsors à côté qui leur permettent de pouvoir s'entraîner correctement. Moi, ce n'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Mais en gros, je me levais le matin très tôt. Je pouvais m'entraîner. Après, j'allais au travail. Je m'entraînais le midi. Je retournais au travail et je m'entraînais le soir. Et je m'étais mis à 80% exprès pour pouvoir m'entraîner deux après-midi supplémentaires par semaine, pour pouvoir m'entraîner assez intensément et pouvoir performer le mieux possible. Après, c'est sûr, par rapport à d'autres pays où ils sont, où en fait, ils s'entraînent constamment, ils ne travaillent pas à côté, ils sont payés pour le faire. En France, ce n'est pas encore le cas. Mais après, il y a eu énormément de progrès par rapport à ça. Il y a plus de sponsors qui sont intéressés par les sports para, et c'est vrai que ça va quand même vers le positif, même si depuis les Jeux, il y a un peu de sous en moins, que ce soit chez les valides ou chez les paras. Pour moi, ça va quand même vers le positif, et les personnes qui sont en charge de tout ça, en fait, font tout pour que ça aille vers le mieux.
Je rebondis juste, quand tu parlais de sport, en fait, tu as envie que ce soit, comment dire, que tu fasses des efforts, forcément, mais que tu sois aussi stimulé intellectuellement. Parce que tu vois, par exemple, la muscu... Enfin voilà, c'est mon avis. Mais je trouve que c'est la répétition d'un même geste. Mais il n'y a pas toute la stratégie de jouer en équipe, tu vois. C'est un autre état d'esprit.
Alors en fait, pour moi, la muscu et la préparation physique, c'est un outil qui me permet d'aller vers la performance.
Ouais, okay.
Donc après, il y a la muscu, quand on le voit bêtement comme ça, on se dit « Ah ouais, il pousse juste de la fonte ». Non, en fait, il y a tout un programme derrière. Où en gros, faut soulever tel poids ou faire tel exercice et ainsi de suite pour aller vers la performance. Donc en fait, tout est réfléchi pour se diriger vers, comme je vais me répéter, vers la performance. Mais à côté de ça, en fait, c'est pareil. Au niveau du volley, on se dit, bon, les mecs, ils sont sur le terrain, ils se font juste des passes et ils vont essayer de mettre des points. Non, en fait, à côté, il y a quand même tout un travail au niveau des coachs. Et en fait, il y a un scout, c'est une personne qui va regarder tous les matchs, qui va essayer d'analyser tous les matchs et de donner en fait des billes au coach. C'est un outil aussi. Et ça, c'est très important parce que nous, à côté, on fait beaucoup d'analyses vidéo. On sait par exemple que le numéro 6, il est placé à tel endroit, qu'il va taper le ballon de telle façon la plupart du temps. Donc tout ça, c'est analysé et faut retenir tout ça. Donc on a plein d'analyses vidéo, on a des schémas à apprendre, on a pas mal de choses. Donc quand on a l'impression des fois que en fait on se fait des passes et puis le but c'est de taper le plus fort possible pour que l'autre récupère pas le ballon, non, c'est quand même réfléchi avant et on sait où on veut mettre le ballon.
C'est bien plus que ça.
Voilà, c'est bien plus que ça.
Bien sûr.
On peut parler de stratégie, un peu comme aux échecs.
C'est exactement ça. C'est une stratégie tout au long de. Je vois notre sélectionneur en fait est fan de football américain parce que lui c'est la stratégie, la technique, tout ça qui l'intéresse. Et c'est vrai que le volley s'en rapproche énormément, on n'a pas l'impression, mais comme au football américain, il y a d'abord la défense, bien savoir placer ses joueurs et ainsi de suite, de quelle position on a analysé avant, et après il y a le côté, une fois qu'on a le ballon de notre côté, c'est comment attaquer. Donc il y a toute une stratégie à mettre en place, même si oui, on a l'impression qu'on fait trois passes et on va marquer. Mais non, on sait qu'en plus, nous, il y a le handicap qui rentre en jeu. Donc on sait que telle personne de tel côté est un peu plus faible, donc on va essayer d'appuyer de ce côté-là, et ainsi de suite.
Vous connaissez du coup les autres équipes qui sont vos adversaires, qui sont différentes les unes des autres, j'imagine.
Ouais, ouais, ouais. Nous, par exemple, dans le top 20 mondial, enfin, déjà, j'essaie de mettre, de faire une différence par rapport aux moyens qui sont mis en place. Nous, on est dans le top 15 mondial. Donc, en 2 ans, on est monté de la 42e place à la 15e place mondiale, ce qui est assez, ce qui est très bien, sachant que dans le on va dire dans le top 20, top 15 mondial, on est la seule équipe où les joueurs ne sont pas payés quand ils vont en équipe nationale. Donc déjà, par rapport à ça, il y a quand même beaucoup moins de moyens. Les autres joueurs peuvent plus s'entraîner. Par exemple, les États-Unis, ils sont basés à une université. Toutes les familles sont regroupées au même endroit. Et en fait, ils passent leur temps à s'entraîner là-bas. Et ils ont une bourse pour ça. Donc forcément, pour rivaliser avec les meilleurs du monde, ils ont tous les moyens. Après, nous, on peut s'en rapprocher, et le fait de progresser et de continuer notre progression, ça peut que montrer en fait aux fédérations ou à d'autres instances que, bah oui, il faut mettre peut-être plus de moyens dans certains sports et pour pouvoir avancer. Donc nous, la première étape, c'était les Jeux paralympiques. Oui, on n'a pas fait forcément un bon résultat, mais on le savait avant. Mais le but, c'était pas non plus d'être ridicule, et on l'a pas été. Et notre but, c'est surtout de continuer à développer ce sport qui existe en France que depuis 2017, alors que c'est aux Jeux depuis 1980 et quelques. Donc on avait un retard à rattraper, on en a rattrapé pas mal. Maintenant, c'est à nous aussi, joueurs, pas que la Fédé, d'essayer de montrer l'exemple et d'essayer de recruter des personnes qui pourront peut-être être meilleures que nous et moi, m'en remplaceront à un moment. Ça, moi, c'est mon but aussi, d'accompagner.
De faire perdurer ça aussi dans le temps.
C'est ça.
Moi, j'avais une question. J'ai l'impression que le sport, à l'heure actuelle, c'est ce qui te porte beaucoup dans ta vie, ce qui te donne envie de te lever, etc., en partie. Et je me demande, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu touches à l'art, par exemple? C'est un exemple, hein,
oui, je suis sportif, mais je dessine beaucoup. Je fais des dessins au fusain. Après, en ce moment, j'ai un peu moins le temps, mais j'ai aussi ma maison, donc j'ai pas mal de bricolage. Et puis, J'ai toute ma vie personnelle aussi à côté, donc c'est un équilibre à trouver, de trouver un équilibre sur la vie personnelle, sur le travail, sur le sport. Enfin voilà, c'est tout un équilibre à trouver et c'est pas forcément évident avec le sport à haut niveau.
Aujourd'hui, c'est combien d'heures? Ça représente combien d'heures de sport par jour?
Par jour, ça fait 3 heures. Et en sachant qu'en ce moment, j'ai réduit quand même pas mal parce que fallait que je calme un peu. Donc voilà.
Avant les Jeux, c'était plus?
Avant les Jeux, ouais, j'étais plus à... Alors non, on va dire aujourd'hui, je suis plus à 2-3 heures, ça dépend. Et avant les Jeux, vu qu'on avait pas mal de stages, on pouvait avoir des semaines où on se retrouvait à 8 heures de sport par jour.
Et au niveau des sponsors, comment ça s'organise?
Au niveau des sponsors, c'est pareil, on se débrouille, donc c'est à moi d'essayer de trouver des sponsors. Après, il y a un organisme qui s'appelle le Pack de Performance, qui aide des sportifs de haut niveau à trouver des sponsors. Donc on dit par exemple que sur l'année, on a besoin de tant de budget, et eux, ils essayent de nous trouver des sponsors. Donc eux, au passage, ils prennent un peu de sous pour ce qui est logique pour leur fonctionnement. Mais depuis que cet organisme-là existe, ça aide pas mal. Après, le département et la région, on est quand même dans une région et un département qui aide aussi pas mal les sportifs de haut niveau, qui aide aussi les associations. Donc là-dessus, on a de la chance. Donc moi, je fais partie de la team 41 et puis de la team du centre. Donc c'est l'équipe où tu as différents sportifs de haut niveau. Donc nous, ça nous permet aussi, quand on se regroupe, de pouvoir échanger avec eux. Parce que on se rend compte que dans différentes fédés, il y a des problèmes, ou peut-être qu'ils vont faire comme ça, et ainsi de suite. Et donc nous, ça nous permet aussi de faire remonter certaines infos à notre fédé, d'avoir des billes aussi, en disant ça se passe comme ça à tel endroit, peut-être qu'on pourra mettre ça un jour en place de notre côté, enfin voilà.
Pardon, j'arrête pas de réagir à vos autres. c'est pas joyeux, si ça te dérange aujourd'hui d'en parler, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Comment ça s'est passé quand tu as dû accepter que tu devais vivre comme ça?
Me faire amputer?
Voilà.
Ah ouais, non, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai eu 10 ans de maladie. Donc, pendant ces 10 ans, ça a été les 10 ans qui ont été assez compliqués. Moralement, physiquement, je dormais très peu. Enfin, voilà, donc ma vie pendant 10 ans, c'était un peu compliqué. Et puis, on m'avait déjà parlé de l'amputation quelques années avant. Mais moi, le but, c'était de sauver ma jambe tout au départ. Et à un moment, en fait, en gros, on m'a dit, voilà, on te donne entre 1 et 2 ans pour te décider de te faire amputer, parce qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus le choix. Parce que j'avais aussi également des problèmes au niveau du cœur et des grosses infections au niveau du pied. Donc le but, c'était de me laisser le choix pour que ce soit plus facile à accepter au niveau de l'amputation. Et en fait, le jour où j'ai pris cette décision, donc à côté... Bah, j'ai eu la chance d'avoir des amis, donc, dont Marie-Amélie Le Fur, qui était amputée comme moi, qui, elle, elle ne m'a pas dit « vas-y, fais-toi amputer ». En fait, je lui ai posé des questions, je lui ai dit « voilà, ça se passe comment ?» et ça, et ça. Et en fait, c'est vrai qu'en posant des questions, et puis en discutant avec elle, avec Mathieu, son mari, avec d'autres amis, puis elle m'a mis en contact avec d'autres personnes qui étaient amputées aussi, et des personnes... qui ont été dans le même cas que moi, qui ont dû se faire amputer à un moment où ce n'était pas dû à un accident. Et donc le fait de discuter avec toutes ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il valait mieux que je prenne ma décision rapidement, parce que le fait d'avoir le choix me permettait de mieux vivre mon handicap après, alors qu'une personne qui a un accident, peut-être qu'au début, c'est plus difficile à accepter parce qu'elle n'a pas eu le choix. Donc j'ai pris cette décision-là, et en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et le jour où je me suis fait amputer, je me suis réveillé, et c'était la première fois depuis 10 ans où je me sentais avec aussi peu de douleur. Il y avait la douleur de l'amputation, mais c'était la première fois que je me sentais avec aussi peu de douleur, que je me sentais bien, en fait, où je me disais « ça y est, maintenant, c'est le début d'une nouvelle vie, passe à autre chose, avance et essaye de trouver un leitmotiv pour... pour avancer, et c'est ce que je fais tous les jours, et voilà.
C'est ton nouveau départ à toi.
C'est ça, c'est exactement ça.
Sans douleur?
Sans douleur. Donc après, j'ai quelques douleurs de temps en temps, ça s'appelle des douleurs fantômes. C'est le fait d'avoir toujours les mêmes douleurs qu'avant, alors que mon pied n'existe plus, donc le cerveau est un peu compliqué. Donc ça, avec la psychologue au centre de rééducation, on a appris des petites méthodes pour essayer de calmer tout ça. Donc quand je fais un peu moins de sport, oui, forcément, j'ai un peu plus de douleurs. Quand je suis moins actif. Après, c'est à moi de doser, d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Et puis, moi, je le vis assez bien. Il y a des personnes qui ont du mal à vivre avec ça. Moi, je le vis assez bien. Donc, là-dessus, pas de problème.
Ça veut dire que de ton côté, le sport lutte contre la douleur?
Ouais, pour moi, c'est un peu ça. Le fait de se défouler, en fait, on se sent mieux au niveau de la tête. Et le fait d'être mieux au niveau de sa tête, forcément, après, au niveau du moignon, ça va beaucoup mieux.
Fascinant tout ça, comment le corps et le cerveau réagissent à tout ça.
Et votre parcours aux Jeux Olympiques, ça vous a fait du bien?
Ah oui, mon parcours aux Jeux, ça a été une expérience unique. En fait, ce qui est marrant, c'est que pendant 3-4 ans, le temps d'aller jusqu'aux Jeux, en fait, je me levais, je faisais mon sport, je profitais, on me disait d'aller à tel endroit pour un événement ou... d'aller à telle compétition, j'y allais. En fait, c'était un peu comme un robot. Et les Jeux, j'en ai profité. J'ai vécu ça avec ma famille, mes amis, avec plein de monde qui sont venus nous voir. Le fait que ce soit en France, c'était top. Mais sur le moment, en fait, je ne me rendais pas forcément compte à ce point-là comment étaient les Jeux et à quel point, en fait, c'était une expérience unique. Et là, aujourd'hui... où on approche à un an des Jeux, où je vois des rappels de photos, où je vois qu'à tel moment j'étais à tel endroit, que là il y a les Jeux, qu'on revoit des émissions sur les Jeux paralympiques, qu'on nous invite pour remémorer un peu les Jeux. En fait, c'est là où en gros je repense à tout ce que j'ai vécu il y a un an et tout ce qui m'a amené aux Jeux. Et en fait, là aujourd'hui, je savoure un peu plus et je me dis « Ah ouais, j'ai fait ça et ça et ça ». Donc je dois un peu saouler mon entourage en ce moment parce que j'arrête pas de ressortir des anecdotes. À la limite, j'en sors même plus que quand je suis revenu des Jeux. Voilà.
Ça a duré combien de temps là-bas, au village olympique?
Avant, on a eu 3 semaines de préparation au Krebs de Vichy. Donc on n'a pas vu tous les joueurs, nous on n'a pas vu toutes nos familles, nos amis pendant 3 semaines. Et on a enchaîné direct avec les jeux là-bas sur 2 semaines. Donc pendant 5 semaines, en fait, on était loin de tout le monde. Donc à la fin du premier match, on a eu le droit d'aller voir nos familles. Et ça, c'était top. Tout le monde nous attendait et ça faisait un bien fou.
J'enchaîne avec une de nos questions qui était le pire et le meilleur souvenir des Jeux Olympiques.
Voilà. Le pire, on va dire que j'ai eu une subluxation. Donc mon épaule est sortie sur un plongeon sur l'avant-dernier match des Jeux. Donc ça, sur le moment, j'ai remis moi mon épaule en me relevant sur le moment et je suis allé au filet tout seul.
Comme dans l'arme fatale ?
Non, pas. c'est moins barbare. Moi, j'ai juste fait rouler et c'est revenu. Donc je suis allé au filet et à ce moment-là, en fait, les autres me disent ça va. Moi, j'étais oui, parce qu'il y avait l'adrénaline. Et puis je voulais continuer. Et en fait, je sentais que je transpirais énormément alors que je bougeais pas. Je commençais à avoir des petits vertiges. Et là, il y a le joueur qui était à côté de moi, il me dit « C'est sûr, ça va ?» Je fais « Ouais, ça va le faire là pour ce point-là. » Et il se retourne vers le coach, il dit « Là, il faut le sortir. » Donc j'ai fait le point, il m'a sorti. Et quand il m'a sorti, là, je me suis effondré parce que pour moi, je me suis dit « les Jeux, c'est un rêve. » Et là, ça s'effondre sur l'avant-dernier match. Même si j'en ai profité, j'aurais aimé aider mes coéquipiers jusqu'au bout. Donc après, en fait, je suis allé à l'hôpital et ainsi de suite, j'ai continué à aider mes coéquipiers en étant sur le banc, les encourageant, en étant là pour eux, mais c'était frustrant, sachant que je pouvais rentrer sur le terrain, et là c'était très très frustrant. Donc ça, je pense que c'est la pire chose, et puis la plus belle chose, c'est compliqué, il y en a eu tellement, mais vraiment tellement, sur les Champs-Élysées, quand... C'était un peu démesuré où on voyait tout le public qui criait, qui nous encourageait sur la cérémonie d'ouverture. Il y a eu voir toute ma famille. Je voyais mes neveux et nièces qui étaient dans les tribunes avec. En fait, il y avait sur certains joueurs, on avait notre tête qui faisait 2 mètres de haut. Et il y avait mes neveux et nièces qui la tenaient et qui secouaient ma tête comme ça dans les tribunes. Donc, forcément, c'est des moments qui étaient sympas. Il y a eu. Beaucoup d'échanges, le fait d'échanger avec d'autres athlètes de d'autres pays. Enfin, voilà, c'était une mixité de handicap, de culture. Les Jeux paralympiques, c'est unique.
J'ai l'impression que ça allait très vite, tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, putain, est-ce que c'est réel ? Tellement, tu vois, c'est fort d'un coup, quoi. Enfin, d'un coup, il y a eu du temps pour chaque chose.
Mais... En fait, c'est encore là-dessus où le fait d'avoir parlé avec Marie-Amélie et puis d'avoir parlé avec d'autres athlètes qui ont déjà fait les Jeux avant, j'ai relativisé dès le départ où, en fait, l'exemple tout bête, quand j'étais sur les Champs-Élysées, qu'on voyait tout le monde, le public, des milliers de personnes qui étaient sur le côté à crier... Il y avait des athlètes qui étaient complètement euphoriques de voir ça. Et moi, j'étais plus en retrait. Plus ça allait, plus je reculais un peu, plus je m'écartais de mes coéquipiers parce que j'avais besoin de prendre ce recul. Et tout le long, en fait, je me disais, de toute façon, demain, si je vais dans le métro sans le maillot de l'équipe de France et que j'ai pas ma prothèse, il n'y a pas une personne qui me laissera sa place pour que je puisse m'asseoir dans le métro. Mmh. Donc, en fait, tout le long, je me suis répété ça en me disant que... c'est bien, là, on crie notre nom, mais demain, les Jeux sont terminés, et après, il n'y a plus personne, et le handicap, ça reviendra comme avant. Donc, en fait, il y a peut-être certaines choses qui ont changé, mais sur le moment, c'est ce que je me suis répété.
She's a baby, I believe, I don't know. And she's
Justement, on avait une question de ce type-là sur l'inclusion. On en parle beaucoup, un fait de société. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'inclusion des personnes en situation de handicap aujourd'hui en France ?
Je trouve quand même que, par exemple, moi, quand je suis né, j'avais des pieds bovarus équins et donc j'avais des chaussures orthopédiques. Et je me souviens de mes parents quand j'étais petit, donc ça remonte, c'est il y a plus de 30 ans, les chaussures orthopédiques n'étaient pas remboursées. Donc ça voulait dire que tous les deux mois, mes parents, fallait qu'ils achètent une paire de chaussures orthopédiques à 150€, 200€. Et alors qu'aujourd'hui, tout ça, c'est remboursé. Il y a énormément de choses qui ont évolué. On a la chance en France qu'il y ait beaucoup de choses qui soient remboursées, alors que dans plein de pays, aux États-Unis, si on ne fait pas partie de l'armée, on n'a pas de prothèse. En gros, c'est j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc il y a eu énormément de progrès. Après, forcément, on a envie que ça soit beaucoup mieux. Par exemple, pour une personne amputée, que les prothèses de sport soient remboursées, ça serait top. Parce qu'une lame de course, c'est entre 5 et 15 000 euros. Donc, un enfant qui veut faire du sport, courir réellement, bah, il est bloqué par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a des associations qui aident ces enfants-là. Et surtout que le sport, en fait, leur permet d'aller mieux, de mieux vivre leur handicap, d'être mieux inclus dans la société. Donc là, on parle d'inclusion. Ça, c'est des petites choses qui permettent d'inclure des personnes dans la société plus facilement. Et après, au-delà de ça, au niveau du sport, ils font un gros travail pour pouvoir inclure un maximum de personnes en situation de handicap, ce qui permet de faire évoluer les regards également. Et je pense que en s'aidant du sport ou en s'aidant aussi également de la culture, On peut essayer de faire changer les barrières du handicap. Après, c'est sûr qu'au niveau de, l'État, au niveau des villes, il y a certaines villes qui jouent le jeu où les rues sont adaptées au handicap. Mais c'est compliqué pour une personne qui vient d'acheter un restaurant de se dire je suis obligé de faire des travaux qui vont me coûter 50 000 euros pour adapter pour une personne en situation de handicap. Ça, je le comprends tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas d'aide, pour ça. Donc... Après, c'est aussi aux personnes en situation de handicap de se rendre compte que c'est un peu mieux qu'il y a quelques années, qu'il faut être patient, même si on a envie que ça aille vite. Mais moi, j'espère, et je pense que ça va dans ce sens-là, que ça avance petit à petit. Après, le fait d'avoir retiré des sous au niveau de l'État par rapport au sport en général, dont au niveau du parasport, c'est pas la meilleure des solutions. Les discours qu'on avait pendant les Jeux, ils ont vraiment changé par rapport à ça. Mais on a quand même des élus au niveau des régions, au niveau des départements qui essayent de jouer le jeu à leur niveau et de faire évoluer les choses. Donc j'espère que ça ira dans ce sens-là dans les années à venir.
Et même question, mais du point de vue professionnel ou formation, est-ce que ça a été un frein pour vous ?
Le handicap ?
Ouais.
Pas forcément, parce qu'en fait, mes parents m'ont toujours... c'est pas qu'ils m'ont élevé comme si j'avais pas de handicap, on en a toujours parlé, mais en gros, c'était serre les dents et avance, c'était un peu ça. Et au contraire, ça, j'ai adoré, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, j'en serais là, s'ils m'avaient pas poussé quand j'étais petit. Donc là-dessus, c'est top. Après, c'est plus au niveau du travail. J'avais la chance d'avoir déjà mon employeur. Donc, j'ai pu évoluer au sein de mon travail en changeant de... J'étais éducateur sportif, mais je travaillais toujours pour la même collectivité. Où là, j'ai évolué dans un autre service. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas du tout adaptées au handicap là où je travaillais. Après, c'est pareil aujourd'hui, petit à petit, il y a des choses qui changent, même à mon travail, et ça évolue dans ce sens-là. Forcément, on a toujours envie que ça avance plus vite, mais ça évolue, et après, c'est aussi à moi, de temps en temps, de faire un effort dans ce sens-là. Il faut que ça aille dans les deux sens, en fait. Il faut qu'il y ait un effort de fait chez les employeurs et un effort de fait chez les personnes en situation de handicap. Mais c'est vrai que ça serait l'idéal qu'il y ait beaucoup plus d'emplois qui soient adaptés au handicap pour pouvoir inclure le plus possible des personnes en situation de handicap sans que ces personnes-là, en fait, servent de quotas. Parce que oui, il y a des quotas de personnes en situation de handicap dans des entreprises. Ça serait bien qu'il n'y ait plus forcément ce quota-là, mais que les chefs d'entreprise ou les collectivités embauchent des personnes en situation de handicap sans se dire qu'ils ont un handicap et qu'il faut absolument que je les embauche, mais plus par rapport à leurs compétences.
Oui, qu'en fait, les entreprises choisissent la personne au-delà de ça.
C'est
comme
ça.
Toutes les autres autour, finalement.
C'est ça.
Donc, je comprends.
Et la pression médiatique pendant les JO, ça a été confortable ou, ou indésirable ?
La pression médiatique, non, moi ça allait, parce qu'on ne faisait pas partie des potentiellement médaillables. Donc dès le départ, déjà, on avait une moins grosse pression par rapport à ça. Moi, la pression, sur le moment, je ne l'avais pas forcément, parce qu'à chaque fois, je me disais, ouais, j'ai vécu des choses magnifiques depuis mon amputation. J'ai été champion du monde. On a fait les championnats d'Europe. Enfin, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Ma vie, je suis heureux dans ma vie et ça, c'était le principal. Donc, tout ce qui se passait autour, c'était que du plus. Mais vraiment, vraiment du plus. Et le fait qu'un an avant, petit à petit, il y avait... Donc, on est plusieurs athlètes de l'équipe à avoir tourné dans plusieurs émissions. Et donc, il y avait des émissions qui passaient petit à petit. Et quand j'ai le travail, tiens, je t'ai vu à la télé ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des choses qui sont assez drôles, mais c'était des bons moments à vivre. Et puis, non, pas de pression par rapport à ça. C'est plus, ça me permet, en fait, comme ici aujourd'hui, ça permet d'échanger et de parler du handicap, parler du sport et puis parler du bien-être par rapport à tout ça. Et plus le message passera et peut-être que ça changera petit à petit le regard également par le biais des réseaux sociaux et par le biais des médias.
Tout à l'heure, quand tu parlais un peu de ton parcours, ton amputation, tu as évoqué ta maladie, tu as parlé de pied beau. Nous, il a fallu qu'on fasse quelques recherches parce qu'on ne savait pas très bien ce que c'était qu'un pied beau. Tu peux nous expliquer ?
Alors, ce n'est pas très beau par rapport au nom. Voilà. Donc, en gros, je suis né avec deux pieds beaux varusséquins. Donc, c'est des pieds, c'est une malformation. Donc en fait dans le ventre mes deux pieds sont moins bien développés. Je suis né, mon pied droit était quasiment à l'envers avec des muscles atrophiés et l'autre pied il était un peu mal formé, donc le pied gauche il a pu être retravaillé par les kinés. Le pied droit il a fallu que je subisse deux opérations, une à 4 mois et une à 4 ans avec énormément de kinés tous les jours jusqu'à mes 6 ans je crois. Puis après en fait j'ai vécu ma vie normalement jusqu'à mes 22, 23 ans. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu des gros problèmes, donc des trous au niveau des os, du pied droit, celui où je me suis fait opérer. Ils n'ont jamais trouvé de nom sur cette maladie, donc en gros, ça a attaqué les os. J'ai été balancé de médecin en médecin, ça m'a fait des infections, les infections sont remontées aussi au niveau du cœur, donc tout ça, ça a été assez important. Et puis moi, le but, c'était d'essayer de trouver, à l'époque, je voulais absolument trouver, avoir un nom dessus. Donc j'étais balancé de médecin en médecin, et eux aussi voulaient trouver. Et finalement, à un moment, je sais plus avec qui je discutais, et puis je me suis rendu compte que finalement, des fois, on ne peut pas avoir toutes les réponses qu'on veut, et à partir de ce moment-là, déjà, ça allait mieux. Et puis j'ai été opéré une fois où on m'a bloqué entièrement le pied, ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis après mon état de santé s'est dégradé de plus en plus et puis c'est venu à l'amputation.
Et tu l'as peut-être déjà dit, mais tu avais environ quel âge quand c'est arrivé cette opération ?
Quand la maladie est arrivée ?
Non, quand tu as dû te faire opérer pour l'amputation.
Ah, pour l'amputation, j'avais... faut que je calcule maintenant.
Environ quoi?
Environ 32 ans.
Ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans ton enfance, et je me dis, ça devait être aussi terrible, parce que tout le long de cette période-là, pour quelqu'un qui n'a pas d'handicap, c'est déjà compliqué de se trouver. Toi, tu devais te trouver en acceptant ça en même temps. Ça devait pas être évident, quoi.
Ouais, après, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était assez sain, d'avoir une famille qui m'a toujours poussé, mes sœurs, mes parents. Mon père, il me faisait faire du sport. Avec ma mère, je faisais d'autres activités. Enfin, non, non, ils ont toujours été là à me pousser, à m'encourager. Et puis même dans mes amis, en fait, ça a été assez... ils ont toujours accepté. Même au départ, moi, le but, c'était de... Au collège, c'était d'essayer d'être dans les premiers de la classe en sport. Quand j'avais le bulletin, la première chose que je regardais, c'était mes notes de sport et pas le reste. Donc des fois, ça saoulait un peu mes parents. Mais parce que pour moi, en fait, le sport, ça me permettait de montrer aux autres que j'avais pas de handicap, parce que j'arrivais, malgré le handicap, à passer devant eux. Et c'est ça qui m'a permis, je pense, pour moi, de mieux accepter ce handicap tout au long de ma vie.
Et l'hygiène de vie, pour un sportif, c'est comment ?
C'est faire un peu, ça dépend en fonction des périodes. Après, après les Jeux, on s'est tous un peu relâchés, hein, forcément. Faire un petit peu la fête, boire un peu plus l'apéro, mais autrement, fallait vite y retourner parce qu'on avait plusieurs compétitions qui venaient après, les championnats d'Europe. Donc forcément, c'est de moi-même déjà, de base, je bois pas forcément énormément d'alcool. J'aime bien le rhum, mais à petite dose. Je bois énormément, je fais attention à ce que je mange, pas dans le sens où je vais pas éviter de manger ça parce que c'est trop gras ou quoi que ce soit, mais plus dans le sens j'ai besoin de ça comme apport, donc je vais essayer de cuisiner plus ça ou ça. Donc là-dessus, je fais attention, mais pas, je suis pas non plus comme un gymnaste où il faut faire encore plus attention.
Et tu nous l'as dit, t'es passé du sport de pagaie au volley assis. Ouais. Ça n'a rien à voir. Comment on fait cette transition-là ?
Alors, au départ, c'est que j'avais le double projet. Donc, je faisais les deux en même temps. Et c'est juste que j'ai eu des tumeurs qui sont arrivées au niveau de mon moignon en 2021, juste après avoir été champion du monde de raft. Et donc, il a fallu que je me fasse réopérer, que je me fasse enlever une quinzaine de centimètres de tumeur. Et donc ça, après, il a fallu que je refasse de la rééducation, que mes prothèses se réadaptent. Là, on est 2-3 ans après et je commence tout juste à avoir une emboîture qui me convient vraiment bien. L'emboîture, c'est ce qu'il y a au niveau de la prothèse. Parce que mon moignon a énormément changé depuis ces tumeurs. Et donc le kayak, j'avais besoin de la prothèse pour aller dedans, une prothèse adaptée. Et donc là, c'était pas possible parce que je pouvais pas avoir de prothèse réellement adaptée vu que mon moignon changeait constamment et que j'avais des douleurs encore en continu. Alors que le volley, j'ai pas besoin de prothèse. Et donc j'ai continué à m'entraîner au volley à fond. Et le kayak, je l'ai un peu mis de côté, mais j'en fais en loisir et j'ai envie de refaire de la compétition à un moment parce que j'aime ça. Et puis c'est un autre défi et j'avais ce projet-là aussi à la base.
Du coup, par rapport à vos prothèses, c'est quoi comme matériaux ? Et puis aussi, on a parlé un petit peu tout à l'heure des prix des prothèses. Et est-ce que vous avez des aides ? Parce que je suppose qu'il y en a certainement une pour la vie de tous les jours et une pour les sports que vous faites.
Oui, c'est ça. Donc j'ai, en gros, on a par la sécurité sociale, on a deux prothèses de remboursées tous les 5 ans. Donc là, je suis en train d'en avoir des nouvelles, donc ça, c'est plutôt cool. Deux prothèses qui sont remboursées, c'est pas des prothèses de sport, mais c'est des prothèses, moi, avec un pied dynamique qui me permet quand même de faire pas mal de choses. Donc là-dessus, je vis à fond avec ces prothèses-là. Donc j'aime bien les customiser, mais là, en ce moment, c'est pas les prothèses définitives, donc autrement, j'ai plein de dessins dessus, enfin voilà, c'est assez sympa. Et puis, après, les prothèses de sport, tout ça, ça a un coût. Donc, j'ai eu la chance au début d'avoir un sponsor qui me suit toujours, qui s'appelle Aussure, c'est la marque de ma prothèse. En gros, c'est eux qui font les trois quarts, dans le monde, c'est eux qui font les trois quarts des prothèses. Et eux, en fait, m'ont aidé par rapport à ça, parce qu'ils sont tombés sur ma page Instagram, parce que tout au début, quand je me suis fait amputer, j'ai essayé de partager un maximum sur ce qui se passait de bien, pas bien. En gros, c'était un peu comme un journal intime et je me servais d'Instagram pour ça. Et eux sont tombés dessus, ils ont trouvé que ma démarche était bien, et depuis, en fait, ils m'aident par rapport à ça. Donc j'ai eu une lame grâce à eux, une lame de course, donc ça m'a pas mal aidé.
Et du coup, les matériaux ?
Les matériaux, c'est du carbone et du titane.
Ok.
Voilà.
Et les prothèses de sport, ils sont remboursées ou...
Non, les prothèses de sport ne sont pas remboursées. Et les prothèses de sport, c'est un peu plus cher.
Je vais un peu divaguer, mais je suis très curieuse de ça. J'imagine que tu as des tatouages en lien avec tout ça aussi, et pas purement esthétique.
J'ai aucun tatouage esthétique. Ils ont tous un lien avec ma vie, avec mon entourage, avec tout ça. Mmh. Le dernier, c'est je suis un des seuls sportifs français à avoir pu me faire tatouer sur le village des Jeux. Donc j'ai la phrase Spirit in Motion, c'est la phrase des Jeux paralympiques. Et j'ai pu me la faire tatouer par un tatoueur qui était sur le village olympique. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Ouais.
Et ton prochain programme pour ces années à venir ?
Là, on va avoir la Coupe du Monde aux États-Unis en octobre. Donc ça, c'est le prochain programme. Et puis après je sais pas. Après je sais pas du tout, parce que les programmes de compétition, en gros, on les aura en général, on les sait en octobre, donc à peu près au moment de la Coupe du Monde, on va pouvoir le savoir. Donc moi, dans l'idée, mon idée première, ça serait peut-être d'essayer d'aller aux Jeux paralympiques de 2028 et peut-être 2032. Mais tout ça, en fait, ça, c'est ce que je dis depuis le début, ça peut très bien s'arrêter là, à la fin de la saison. Parce qu'en fait, j'essaie de profiter année après année et de voir si c'est possible, parce que c'est un projet à construire en famille, avec ses proches. Et si à un moment, en fait, tout ça, ça va pas forcément en lien, bah, j'arrête. Et puis je pense que j'ai vécu déjà pas mal de choses. Oui, j'ai pas eu de médaille au jeu, mais j'en ai eu d'autres à un autre moment. Et puis, pour moi, c'est surtout les moments qu'on a vécu et ce qui m'a amené jusque-là. C'est un peu grâce à ça que j'ai continué. Et là, je verrai à la fin de l'année si je continue. Donc, pour l'instant, c'est un peu mitigé, je sais pas. On verra.
Les vraies médailles, c'était souvenir, du coup, un peu.
Ouais, c'est ça. Bon, après, j'en ai eu quand même des belles, mais mais ouais, les souvenirs sont très beaux et je pense que ça restera tout le temps. Et le fait de pouvoir échanger, de raconter un peu mon vécu, ça, c'est aussi des beaux moments.
Petite question sur les entraînements, mais parce que c'est le rafting, c'est quand même pas un sport qu'on peut pratiquer n'importe où. L'entraînement, comment ça se passe ? Tout seul, avec un coach ?
Alors, mon coach, depuis le début, pour n'importe quel sport, c'est mon père. Il est à la retraite depuis quelques années, et lui, il a toujours été sportif. Donc, en gros, moi, j'avais les programmes, lui, il m'aidait, et puis on y allait comme ça. Pour le rafting, ça a bien fonctionné. Donc, en fait, je faisais un entraînement de fond. J'ai eu la chance d'être avec le club de Saint-Dié-sur-Loire, où au départ, c'était un entraîneur bénévole qui venait m'entraîner. Et puis petit à petit, en fait, vu que moi j'avais les programmes quand j'allais en équipe de France, les entraîneurs nous donnaient des programmes. Et avec ces programmes-là, on avançait. Moi, j'arrivais chez moi et puis je disais à mon père, bah voilà, faudrait que tu regardes ça, ça, ça pendant l'entraînement ou booste-moi pour ça. Puis mon père regardait aussi de son côté et puis on a fait comme ça. Donc au départ, c'était un entraînement de fond plus sur la Loire avec un kayak qui n'était pas du tout stable. Et puis comme ça, quand j'allais en stage en équipe de France de raft, c'était top. Enfin voilà, je travaillais le foncier de mon côté. Et puis après, c'était entraînement pendant plusieurs jours. Et voilà.
Tu as parlé des prothèses et tu disais que ça pouvait être customisé.
Oui. En gros.
Est-ce que, par exemple, un artiste pourrait customiser ? Est-ce que tu y as pensé ? Est-ce que tu aimerais bien ? Est-ce que ça s'est déjà fait ?
Oui, ça s'est déjà fait. En fait, quand je me suis fait tatouer avec... Marine Tattoo, c'est une tatoueuse assez connue sur Blois et même sur la région. Elle m'a fait, du coup, quand elle m'a tatoué, elle voyait que j'avais ma prothèse qui était customisée. Et vu qu'elle était customisée, elle m'a dit, bah, si tu veux, moi, à un moment, je peux te la customiser. Donc, en fait, elle m'a fait entièrement un tatouage sur ma prothèse. Donc, c'était plus un tatouage, c'était vraiment un vrai dessin, c'était un tableau que j'avais dessus, parce qu'à côté de ça, elle est aussi une artiste. Et du coup, j'ai eu deux masques C'est des masques japonais, de guerriers japonais, enfin avec toute une histoire derrière. Donc là-dessus, c'était assez top, ouais. Mais j'aime bien, moi, faire mes dessins. Mm. Ou que mon entourage me fasse les dessins. Je trouve que le symbole, il est différent.
Oui, la valeur est différente, du coup.
Et du coup, est-ce que les JO, ça vous a permis d'avoir des nouvelles opportunités après tout ça ?
Pas forcément. Enfin, ça m'a permis de trouver d'autres sponsors. Cool. Donc là-dessus, ça a été cool. Mais autrement, non, pas spécialement. Ça m'a permis en fait de faire plus d'interventions peut-être auprès d'entreprises ou de d'écoles. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout ça. Mais non, pas plus que ça.
C'est quoi ces interventions ?
En fait, je fais. Déjà, je suis parrain de l'UCEP 41. Donc, l'UCEP, pour eux, c'est. En fait, c'est. Enfin, je vais dire grossièrement, c'est une association au niveau des écoles primaires publiques et maternelles. Où en gros c'est eux qui font le sport à l'école le mercredi, des fois les crosses, l'étoile cyclo c'est l'UCEP, enfin voilà tout ça c'est, ils font énormément de choses auprès des écoles au niveau des animations et en fait je suis parrain de l'UCEP, mon père est engagé dans l'UCEP depuis, parce qu'il était instit, enfin mes parents étaient engagés auprès de l'UCEP, surtout mon père, depuis on va dire une quarantaine d'années. Et là, aujourd'hui, je trouve ça bien d'être parrain de l'UCEP, ce qui me permet de faire énormément d'interventions dans les écoles. Pas forcément avec l'UCEP, mais il y a beaucoup d'écoles qui vont me contacter. Je vais dans les écoles, je fais une intervention où je vais parler du handicap. Je vais leur faire une animation, des fois, au niveau du volet. Donc, je ne peux pas être partout parce que j'ai un travail aussi à côté. Donc, quand j'y vais, je suis obligé de poser une demi-journée de congé pour pouvoir y aller. Donc, je ne peux pas le faire tout le temps. Mais j'adore ça.
Comment tu vis le regard des autres à travers la société ?
Le regard des autres, je le vis, on va dire, 90% du temps bien. Et puis, comme tout le monde, quand on se lève un peu fatigué, et puis qu'on voit quelqu'un qui nous dévisage de la tête aux pieds et qui fixe notre prothèse, les jours où je vais moins bien, bah, je le vis un peu moins bien, mais je me dis que demain, ça ira mieux. Et puis voilà, en fait, c'est... C'est comme tout le monde, des fois on se lève du mauvais pied et donc ce jour-là c'est un peu plus difficile ou les jours où j'ai plus de mal à mettre ma prothèse ou que je ne peux pas la mettre, là c'est un peu plus difficile mais non, j'essaye de positiver un maximum et mon entourage m'aide énormément.
Moi je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu étais enfant, collégien, tu as parlé bulletin et la première chose que tu regardais c'était tes résultats sportifs, c'est quand même... assez étonnant d'avoir des difficultés, un handicap et d'être performant, de vouloir se battre. Et ce serait facile d'être fort en mathématiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, ça aurait été
le plus... choix du sport. Il était quand même
c'est ça,
un petit peu ambitieux.
Ça, c'était le challenge. Et en fait, je vois, j'ai ma nièce qui a un handicap également. Qui n'a rien à voir avec le mien, donc c'est pas génétique, c'est pas... parce que des fois il y en a qui font des raccourcis. Ma nièce a un handicap et elle en fait elle l'a pas compensé par le sport. Elle, le sport, elle aime bien regarder ou m'encourager, et encore le sport ça va plus être je me lève le matin et puis rien que d'aller au collège ça me va bien. Enfin, c'est un peu ça, enfin, j'exagère et puis si elle m'écoute elle va râler. Mais non, elle se dépasse. Elle va se dépasser quand même en sport. Elle va essayer de se dépasser un maximum. Et d'ailleurs, par rapport à ça, elle m'impressionne. Mais son but, c'est pas d'être dans les premières. Son but, c'est d'avoir la moyenne et de se débrouiller et d'être bien par rapport aux autres, par rapport à ça. Mais à côté de ça, je pense qu'elle a compensé énormément aussi par la tête. Enfin, que ce soit elle ou sa sœur, parce que c'est des jumelles. Parce qu'elles sont très, très intelligentes. Elles font partie des meilleures de leur classe depuis qu'elles sont petites. Et je pense qu'elles ont peut-être compensé par rapport à ça. Mais moi, au-delà de l'école, c'était surtout le montrer physiquement. J'avais ce besoin-là. Et je pense que chez un mec, quand on grandit, des fois, c'est un peu... Chez les filles, c'est mesquin aussi à leur façon. Mais chez les garçons, la plupart du temps, ça passe par le sport. Donc moi, en tout cas, ma génération, c'était ça. Aujourd'hui, peut-être que ça change un peu. Mais moi, il y avait ce besoin-là de montrer en fait que ça allait, que si j'étais dans les premiers, bah toi tu vas arrêter de m'embêter ou de te moquer de moi parce que j'ai un handicap. Parce que quand on est ado, il y a beaucoup de moqueries, énormément de moqueries. Et je me dis qu'en allant dans les écoles, c'est peut-être aussi comme ça que j'arriverai à enlever ces moqueries-là.
Du coup, être champion du monde, avoir des titres et tout ça, est-ce que ça change quelque chose financièrement ou pas du tout ?
Ça change rien du tout. Mais rien de chez rien de chez rien. Si j'aurais voulu que ça me change quelque chose, il aurait fallu que je gagne une médaille aux Jeux Paralympiques. Mais c'est pas le cas. Et encore ça, en fait... Quand on voit, on se dit qu'on voit un athlète qui a gagné une médaille aux Jeux Paralympiques, en fait, ce que les gens se disent, ouais, c'est génial, tout ça, il y en a plein qui se disent, ah, il va gagner plein de sous. Non. En fait, il va gagner le prix de la médaille, sauf qu'après, ce prix de la médaille-là, il est imposable dessus, donc il perd déjà plein de sous sur cette médaille-là. Et au final, ces sous-là, c'est, on va dire, pendant 5 ans, 6 ans, en fait, il a peut-être pas travaillé, ou il a peut-être moins travaillé, il a gagné moins d'argent. Il a peut-être eu des sponsors, mais pas assez pour tout payer. Donc en fait, tout ça, ça va lui permettre de se rembourser. Et après, peut-être que ça va lui amener d'autres opportunités. Je pense qu'une personne qui a gagné une médaille a peut-être eu plus d'opportunités que moi après, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont fait leur preuve. Et au contraire, et j'espère que eux, là aujourd'hui, après avoir gagné une médaille, vont peut-être avoir plus de sponsors qui va leur permettre de gagner plus d'argent également. Ça, je l'espère. Après, je ne le sais pas du tout, mais je l'espère. Mais en tout cas, non, quand j'ai gagné la médaille de champion du monde ou de vice-champion du monde, j'ai rien eu du tout. Non, non. J'aurais bien aimé.
Le temps passe, il va falloir qu'on finisse. Est-ce que vous avez une dernière question ?
Encore une question sur les tatouages. J'ai envie de te poser 1000 questions, mais on n'a pas une semaine devant nous, malheureusement. Je me demandais, c'est quoi le prochain bon souvenir que tu veux te faire tatouer ? Si t'en as un en tête.
Non, j'en ai pas forcément... En fait, j'aime bien les tatouages où on mélange plein de choses. Donc, j'ai plein d'idées en tête, mais non. Et puis là, tout à l'heure, j'ai juste parlé de mon tatouage des Jeux, mais tous les autres, en fait, pour moi, tous les tatouages ont des significations et pour moi, ça reste assez personnel.
Voilà. Oui, je comprends.
C'est propre à chacun.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ah bon alors?
Les rencontres d'Elios, l'émission de l'hôpital de jour de la clinique de Sommerie.
Les rencontres d'Elios.
Avec Studio Zef.
Je vais bien, tout va bien.
Bah oui, c'est mieux. On n'arrive pas à se comprendre du coup. C'est mieux, génial.